En ces temps de pandémie, de guerre, d'incertitude pour l'avenir, le plaisir est-il encore permis? Est-ce que Dieu est d'accord qu'on se fasse plaisir au milieu des épreuves de la vie? Les chrétiens peuvent-ils se détendre en temps de crise? Pouvons-nous profiter de la vie en période d'épreuve? Que dit la Bible à ce sujet? Bonne question. Le livre de l'Ecclésiaste va nous aider à répondre à cette question. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, l'auteur de ce livre reconnaît qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, un moment pour chaque chose dans cette vie. Il écrit ensuite au verset 4, il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. La vie, le texte est clair, la vie ce n'est pas tout le temps du happy-clappy. On danse, on chante, on frappe des mains et joie, joie, joie. Il arrive que nous soyons dans la tristesse, n'est-ce pas? Il arrive que nous soyons dans les larmes à cause d'une situation difficile. Il arrive que nous soyons dans les lamentations ou le deuil à cause d'une perte. Ce n'est pas dans ces moments-là que nous sommes dans les rires ou dans les danses joyeuses. Dieu nous invite même à pleurer avec ceux qui pleurent. Dans la situation de pandémie que nous avons traversée et qui n'est pas encore terminée, et dans cette période de guerre en Ukraine, Dieu nous appelle à penser aux personnes qui souffrent, à prier pour elles et à agir concrètement pour aider. Je me souviens d'un jour où je jouais avec mes enfants. C'était un très bon moment de détente. J'aime rire et eux aussi. Donc vous imaginez la joie dans tous les sens. Et je me prépare pour aller à un enterrement. Le contraste était grand là. Devais-je m'empêcher de vivre ce moment d'amusement avec mes enfants parce qu'il y avait un enterrement? Pouvons-nous continuer à avoir des temps de plaisir, de loisirs et de détente malgré les épreuves de la vie, comme je viens de le dire à l'instant, avec ce que j'ai vécu avec mes enfants? Voici comment le livre de l'Ecclésiaste y répond. Juste après avoir dit qu'il y a un temps pour tout et avoir partagé 28 événements qui couvrent toutes les gammes des activités humaines, aussi bien individuelles que collectives, l'Ecclésiaste dit au verset 12 et 13 « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. » Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, écoutez la suite, c'est un don de Dieu. Fin de citation. Dans les premiers versets, l'Ecclésiaste avait parlé des bons et mauvais moments de la vie. Il parle de paix, mais aussi de guerre. Donc, il y a vraiment des contrastes assez saisissants dans les premiers versets. Et c'est au milieu de tout cela qu'il nous invite à nous réjouir et à nous donner du bon temps durant cette vie. Il s'agit ici de profiter des plaisirs tout simples de la vie, malgré les circonstances. L'Ecclésiaste en donne quelques-uns. Des plaisirs matériels comme manger et boire, ça on connaît. Hein. Le bonheur au milieu d'un dur labeur, on connaît aussi. Surtout que quand on a fait quelque chose de bien, une belle activité ou un bon travail, qu'on se réjouit du fruit du travail que nous avons fait. On aime ça. Mais on peut oser compléter cette liste des plaisirs par tout autre type de plaisir. Profiter de bon temps, de bons moments en famille, faire la fête, se promener, contempler la nature, passer un temps avec des amis, faire du sport, lire un livre, profiter de vacances jouir de l'amour conjugal, jouir des richesses, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, faire du jardinage, aller à un concert, danser, etc. Et avec toute cette liste, si je demandais de lever les mains pour, selon les choses qui vous détendent le plus ou les choses que vous aimez, on lèverait les mains à des moments différents. On est tous différents là-dessus. Moi, j'aime lire les livres. Mais il y en a qui détestent ça. Donc, on est tous différents là-dessus. Mes amis, au milieu des bons et des mauvais moments de la vie, nous pouvons nous détendre et profiter des plaisirs de la vie. C'est possible. Et c'est même voulu par Dieu. Bien sûr, c'est pas quand je dis ça, on n'est pas en train de dire qu'en plein dans un enterrement, on est en train de jouer à un jeu vidéo. Hein, on n'est pas en train de dire ça. Il y a un moment pour tout. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au milieu des épreuves de la vie, on a le droit de se détendre. Et c'est même un don de Dieu. Alors, je vais peut-être vous bousculer, mais Jésus-Christ lui-même a vécu ainsi. Écoutez ce que le théologien Alfred Kuhn rapporte à son sujet. Je cite, « Contrairement à l'image que l'on avait souvent de lui, Jésus était un homme toujours joyeux. Même dans les moments les plus pénibles de son existence, il a accueilli toutes les joies réelles de l'existence humaine, depuis les plus simples, les plus immédiates, jusqu'aux plus spirituelles. N'est-ce pas surprenant ce que Alfred Kuhn nous dit là maintenant ? Il montre ensuite comment Jésus a accueilli les joies de la vie. Et je vais vous les résumer maintenant. Il écrit « Jésus a puisé largement aux sources intarissables des joies de la nature. » Par exemple, nous avons un écho lorsqu'il parle avec ravissement des lys des champs, ces petites anémones multicolores qui poussent sur les pentes des collines galiléennes, ou des oiseaux du ciel, ces passereaux dont deux se vendent pour 5 sous et que le Père nourrit avec largesse. Jésus a aussi pris plaisir à l'activité humaine. En tant qu'artisan, il a pu parler avec amour des joies et des peines de son métier de charpentier. Il en a fait des images pour illustrer ses messages. On pourrait en donner quelques-uns. Il se réjouissait de la moisson abondante que donnait la bonne terre. C'était un homme mêlé de toutes les activités de ses contemporains, partageant leurs joies et leurs peines. Il a pris part aux réjouissances simples, aux fêtes, aux festins de ce peuple au milieu duquel il vivait. Au début de son ministère, il va à un mariage avec ses disciples. Il fait même le cadeau de quelques centaines de litres d'un vin de premier choix. Souvent, nous trouvons Jésus à des repas offerts en son honneur. Il appréciait les gens et leur compagnie, que ce soit ses disciples, avec lesquels il avait du plaisir à causer, ou ses amis de Béthanie, dont il aimait le foyer accueillant. Il aimait les enfants qu'il accueillait avec joie, en les embrassant et en les bénissant, ou les gens même de mauvaise vie, avec qui il mangeait. Mais il cherchait à les sauver. Sa présence était enthousiasmante. Ses histoires et ses discours ne manquaient jamais d'imagination ni d'humour. Waouh ! Vous entendez tous ces détails ? Je crois qu'une citation résume bien ce que nous venons de voir sur Jésus. Jésus a été heureux plus qu'aucun homme. Jésus a été heureux plus qu'aucun homme sur cette terre. Malheureusement, nous chrétiens, nous ne sommes pas tout le temps heureux, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas aussi tous une bonne vision des plaisirs et des joies de la vie. Je me souviens avoir parlé avec une personne au téléphone qui avait regardé une série intéressante à la télévision. Et voilà, elle était là, le premier épisode, puis le deuxième, le troisième, et voilà, elle était vraiment dedans. Mais elle m'en parlait en disant qu'elle n'était pas à l'aise avec cela parce qu'elle pensait avoir mal utilisé son temps. Elle avait une sorte de culpabilité. Alors que quand elle m'en avait parlé, ça n'avait pas pris tout son temps. Et je crois que de nombreux chrétiens ont du mal, parfois, à se détendre, parce qu'ils pensent que les loisirs ne sont pas forcément une bonne chose ou une perte de temps. Ils pensent peut-être qu'ils devraient toujours faire quelque chose de spirituel à la place. J'aime ce qu'a écrit le théologien Sylvain Romerowski, qui a fait partie de cette église. Il a dit ceci dans son commentaire sur notre texte de l'Ecclésiaste. Je cite, « Les chrétiens qui ne s'autorisent à songer qu'à la piété ou aux choses dites spirituelles se trompent et s'exposent à un déséquilibre de leur vie et de leur personne. »
Oh.
Certes, la piété est d'une importance extrême, mais nous avons aussi besoin de nous faire plaisir avec ceux que nous aimons. Dieu nous a créés ainsi, et on ne l'ignore pas sans dommage. C'est aussi vrai lorsqu'on est engagé dans le ministère, dans le service pour Dieu. Plus loin, il a écrit ceci, « Dieu sème dans notre vie des moments de bonheur, petits ou grands, pour que nous en jouissions. Nous en priver, c'est passer à côté de ce qu'il veut pour nous et rejeter des choses dont nous avons besoin. » Waouh ! C'est très intéressant, n'est-ce pas ? On a besoin de s'amuser, de se détendre. Dieu nous a créés ainsi. Dieu sème des moments de bonheur dans notre vie. Nous ne devons pas les rejeter. À ce sujet, le pasteur Peter Scazzero écrit « Dieu ne nous appelle pas à mourir aux bonnes choses qui sont en nous. Il ne nous a jamais demandé de mourir aux désirs sains et aux plaisirs de la vie, à l'amitié, la joie, l'art, la musique, la beauté, les loisirs, le rire et la nature. Dieu plante, écoutez bien, Dieu plante des désirs dans nos cœurs pour que nous les nourrissions et en jouissions. » Très souvent, ces désirs et ces passions sont des invitations qui viennent de Dieu, des cadeaux de sa part. Mais nous nous sentons coupables d'ouvrir ces présents. Fin de citation. C'est fort. Dieu plante des désirs dans nos cœurs pour que nous les nourrissions et en jouissions. La manière dont Dieu a conçu le corps humain montre que le plaisir fait partie de son plan. Nos papilles gustatives et nos autres organes sensoriels sont la preuve que Dieu n'est pas hostile au plaisir. Pourquoi la nourriture a-t-elle si bon goût ? Pourquoi les roses sentent-elles si bon ? Pourquoi un massage du dos est-il si agréable ? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Le plaisir est son idée. Merci, merci Seigneur pour ça. Dieu est heureux, les amis. Il veut aussi que nous soyons heureux. Dieu prend plaisir en toute sa création. Il veut que nous profitions nous aussi du monde qu'il a créé. Amen. Mais, c'est pas pour enlever tout ce que j'ai dit. Une question est importante. Pourquoi pouvons-nous continuer à jouir de la vie dans un monde qui va mal ? Pourquoi ? Voici quelques réponses de l'Ecclésiaste. Premièrement, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je lis Ecclésiaste chapitre 3, toujours le chapitre 3, les versets 9 à 11. L'Ecclésiaste dit ceci, « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Dans ce texte, l'Ecclésiaste pose une question importante. Puisque les activités humaines sont à la fois constructives et destructrices, à quoi ça sert de travailler ? Quels avantages pouvons-nous tirer du travail quand la vie est parfois belle, parfois dure et frustrante ? Quels sont les bénéfices quand le temps est comme un maître qui nous domine ? L'Ecclésiaste poursuit en disant que c'est Dieu qui impose les occupations, les activités humaines. Il finit en disant que Dieu fait toutes chose belle en son temps, au sein, en fait, de nos activités, de notre temps, de l'histoire humaine. Il y a un contraste entre les actions que nous faisons dans ce texte et dans ce que Dieu fait. Nous faisons de bonnes et mauvaises choses sur terre, mais Dieu fait toujours de bonnes choses. Le problème, c'est que il peut être difficile parfois de reconnaître que Dieu agit toujours pour le bien de sa création. L'Ecclésiaste nous rejoint sur ce point, et ça fait du bien. Il écrit dans le verset 11 que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Alors j'explique ce texte, parce que tout de suite comme ça, on ne peut pas le comprendre. Selon ce texte, nous avons en nous le sens de l'éternité. C'est-à-dire que nous avons en nous tous une soif spirituelle, un désir ardent d'un monde parfait, un désir profond d'éternité. Nous aspirons d'une manière ou d'une autre à une vie spirituelle, à une vie éternelle et parfaite. Et peut-être que vous en êtes conscient, ou peut-être pas, mais en fait, nous avons tous soif de Dieu. Le problème, c'est que nous ne voyons pas et ne connaissons pas cette éternité, ni tout ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire humaine. Nous n'arrivons pas à tout comprendre. Nous avons du mal à comprendre Dieu dans tout ce qu'il fait. Son œuvre nous dépasse. Et je me souviens, une personne... Ça arrive souvent que des personnes me posent la question « Mais pourquoi le mal alors que Dieu existe ? Pourquoi le mal ?» Cette question n'est pas à des éléments de réponse, mais reste quand même mystérieuse. Malgré tout ce que nous ne comprenons pas de Dieu et de son œuvre, malgré nos pourquoi sans réponse, la Bible nous invite à affirmer que le mal et le malheur ne viennent pas de Dieu. Toutes bonnes choses viennent de Dieu, pas le malheur. Le péché, je le rappelle, le péché, le mal et la souffrance sont venus sur cette terre depuis la désobéissance du premier homme et de la première femme que Dieu avait créé, Adam et Ève. Depuis des siècles, nous souffrons à cause du péché. Mais la Bible dit qu'un jour, nos souffrances cesseront. Et nous pourrons vivre ensemble avec Dieu si nous venons à lui par Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Alors peut-être ce matin, vous avez du mal à croire en la bonté de Dieu à cause d'une situation difficile que vous traversez ou vous vous trouvez dans une autre situation, mais voilà, c'est comme le brouillard qui est devant vos yeux et vous avez du mal à voir que Dieu est bon. Je vous invite vraiment à faire appel à Dieu, à vous approcher de lui, pour qu'il vous communique sa bonté. Mes amis, il est possible de profiter de la vie dans le monde que Dieu a créé, mais qui ne va pas en ce moment, parce que Dieu travaille toujours pour le bien de ce monde. Jour après jour, il attire des personnes à lui afin que le plus grand nombre soit sauvé et reçoive la vie éternelle. La vie n'est pas toujours bonne, mais Dieu est toujours bon. Pourquoi pouvons-nous continuer à jouir de la vie dans un monde qui va mal ? Deuxièmement, parce que Dieu est maître du temps. Si Dieu fait toutes choses belles en son temps, c'est parce qu'il est le maître du temps. C'est lui qui le gouverne. Nous pensons tous que nous contrôlons tout. Mais la vérité est que nous avons peu de contrôle sur notre vie. La période Covid, je pense, nous l'a bien montré. Tout peut nous être emporté en un instant, même la vie. Mais Dieu est maître du temps. Nous pouvons toujours profiter de la vie au sein d'un monde qui va mal parce que Dieu est aux commandes. Il est souverain et les temps sont dans sa main. On peut ajouter le verset 14 de l'Ecclésiaste, donc du chapitre 3, « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher. » L'Ecclésiaste dit ici que tout ce que Dieu fait durera toujours. Pourquoi ? Parce qu'il est maître du temps, au point qu'il œuvre dans l'histoire humaine. Tout ce que nous faisons sur terre est imparfait, limité, s'arrêtera un jour. Mais tout ce que Dieu fait est parfait et éternel. Le savoir devrait nous rassurer, même dans les moments les plus difficiles, et nous permettre de profiter de la vie, malgré les circonstances. Pourquoi pouvons-nous continuer à jouir de la vie dans un monde qui va mal ? Parce que Dieu nous offre de bonnes choses. Dieu nous offre de bonnes choses pour en jouir. Ecclésiaste donc 3, versets 12 à 13, je cite, « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Ici, malgré tout ce qui se passe dans le monde, Dieu nous permet de profiter des petits et grands bonheurs de la vie qu'il nous offre. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai dit pas mal de choses tout à l'heure sur ce sujet. Dernier point, pourquoi pouvons-nous continuer à jouir de la vie dans un monde qui va mal ? Parce que Dieu rétablira toutes choses. C'est la plus belle des nouvelles. Verset 17. L'Ecclésiaste dit, « Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour toute chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. » Il y aura un jugement, les amis. Le péché, le mal et le désordre sont présents dans ce monde. Mais Dieu rétablira l'ordre en exerçant sa justice à la fin du monde. L'avenir qui nous attend au paradis est un monde rempli de bonheur, exempt du mal et de la souffrance. Dieu nous donnera de jouir de la vie pour toujours, avec lui et avec tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus. Avoir une telle espérance pour l'avenir nous aide à profiter de la vie avant le retour de Jésus-Christ. Mes amis, quelle bonne nouvelle ! Nous pouvons jouir de la vie dans un monde qui va mal parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Parce que Dieu est maître du temps. Parce que Dieu nous offre de bonnes choses pour en jouir. Et parce que Dieu rétablira toutes choses. Waouh ! Mais même si on sait tout cela, à cause de nos péchés, il est difficile de donner une juste place à nos plaisirs. D'un côté, certains ne profitent pas de la vie, et cela n'est pas une bonne chose, on l'a dit tout à l'heure. Mais d'un autre côté, plusieurs donnent au plaisir une trop grande place dans leur vie. Les plaisirs ne doivent pas prendre la place de Dieu. Écoutez, lorsque nous comptons sur les plaisirs pour rendre la vie supportable et échapper aux difficultés, ils ont pris la place qui revient à Dieu. Lorsque nous essayons de trouver toutes nos sécurités et aussi toute notre satisfaction dans les plaisirs, ils ont encore pris la place qui revient à Dieu seul. Lorsque les plaisirs nous font ignorer nos responsabilités envers Dieu, envers les autres, envers notre propre famille, envers la création de Dieu, c'est parce qu'ils ont repris la place qui n'appartient qu'à Dieu. Lorsque nous ne vivons pas dans le contentement, mais recherchons toujours plus et plus et plus de plaisir pour notre satisfaction personnelle, cela veut dire que les plaisirs ont pris encore la place qui revient à Dieu. Lorsque nos plaisirs nous isolent des autres, ils ont encore pris la place qui revient à Dieu. Et les plaisirs ne sont pas de bons amis. Dans notre société, les plaisirs ont pris une place démesurée. Nous sommes surstimulés par la nourriture, les médias sociaux et bien plus encore. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont accros à toute forme de plaisir. Cela les détruit. Nous recherchons le plaisir à tout prix. Ce faisant, nous finissons par ruiner nos relations, notre couple, notre famille, notre bien-être personnel. Rechercher le plaisir à tout prix n'a jamais arrangé les choses. Ça nous rend moins humains et ça nous pousse à vivre sans Dieu. Jésus le sait très bien que les plaisirs peuvent être dangereux, surtout pour la vie spirituelle. Il avait averti ses auditeurs quand il avait parlé avec la parabole du semeur dans la bonne terre, la mauvaise terre. Il avait averti ses auditeurs de faire attention aux plaisirs de la vie, car ils peuvent éloigner une personne de Dieu. Il y a des personnes qui viennent à l'église, et puis à un moment donné, on ne les voit plus, parce que les plaisirs ont pris place. D'autres viennent ici, ils viennent régulièrement ici, mais ont laissé les plaisirs prendre toute la place. Et Dieu est en dehors de leur vie. Quelle place donnons-nous au plaisir ? Heureusement, l'Ecclésiaste nous aide et fournit un cadre dans lequel nous pouvons expérimenter les plaisirs de la vie. Les plaisirs peuvent avoir une juste place dans notre vie si nous maintenons trois fondements. Je vais vous les donner. Premier fondement, le respect de Dieu. Verset 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. » Écoutez la suite. « Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. » La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la soumission à sa volonté. L'Ecclésiaste nous dit de respecter Dieu parce que toutes ses décisions sont parfaites et éternelles. Sa personne et tous ses bienfaits envers nous doivent nous conduire à l'honorer, à le respecter au plus haut point et à l'adorer. Respecter Dieu doit nous amener à l'honorer dans tout ce que nous faisons et aussi dans les plaisirs que nous choisissons. Dieu veut que nous l'honorions dans toutes les choses que nous faisons, y compris nos plaisirs. Voici des plaisirs qui n'honorent pas Dieu. Je vais citer un texte, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Il dit ceci, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire quoi ? L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées. » Ce sont de tels comportements, et plutôt, j'ai oublié, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ce texte est clair. Dieu nous invite à profiter de la vie, non en nous livrant à une mauvaise conduite ou à toute forme d'impureté. Le respect de Dieu doit nous conduire à honorer Dieu dans nos plaisirs et à nous abstenir de tout ce qui lui déplaît. Deuxième fondement, la confiance en Dieu. Nous avons vu tout à l'heure, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu est maître du temps. Dieu nous offre de bonnes choses pour en jouir et Dieu rétablira toutes choses. Mais les effets devraient être notre confiance en Dieu. Toutes ces choses doivent nous garder dans la confiance en lui. Dans un monde où le mal, la souffrance, la maladie, la guerre, les conflits sont présents, nous pouvons être rassurés en Dieu, qui est maître du temps, qui agit dans l'histoire toujours pour le bien et qui un jour rétablira toutes choses. Restons confiants en lui. Troisième fondement, donc le dernier, la reconnaissance envers Dieu. Pour pleinement profiter de ce que Dieu nous donne, nous devons reconnaître que les bonnes choses viennent de sa main et lui exprimer notre reconnaissance. Merci, notre Dieu, pour ce que tu nous donnes. Nous devons le remercier pour cela. Et deux choses découlent de la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance nous aide à vivre dans le contentement et la reconnaissance nous incite à partager avec d'autres ce que nous avons. Concernant ce dernier, êtes-vous d'accord pour dire que les plaisirs de la vie sont beaucoup plus agréables lorsque on les vit avec d'autres personnes ? Oui, hein ? C'est tellement mieux de regarder un bon film avec des gens que l'on aime que tout seul. C'est tellement mieux de manger un bon repas entre amis que seul. Hier, j'ai mangé un bon poulet avec d'autres personnes, c'était vraiment très agréable. Il y avait même un autre poulet qui nous attendait. Il y avait vraiment... C'était plein de poulets. Recevons avec reconnaissance tout ce que Dieu donne généreusement. Et osons nous sacrifier en partageant avec joie tout ce que nous avons reçu de lui. Offrons du bonheur aux autres. offrons de bon cœur nos biens, notre temps et aussi nous-mêmes en aimant les autres, afin qu'ils soient à leur tour suprêmement heureux en Dieu. Mes amis, gardons bien ces trois fondements dans notre vie. Le respect de Dieu, la confiance en Dieu, la reconnaissance envers Dieu. Avant de terminer, je vais donner un rappel important. Nous ne pouvons pas trouver notre bonheur absolu dans les petits et grands bonheurs de la vie. Il n'y a rien dans cette vie qui puisse vraiment nous satisfaire. Dieu nous donne beaucoup de bonnes choses, mais nous ne pouvons pas trouver la joie ultime dans ces choses. La joie ultime et le bonheur absolu ne se trouvent qu'en Dieu seul. Les desseins de Dieu pour nos vies n'est pas le plaisir. Nous avons été créés pour faire de Dieu nos délices. C'est ça qui nous attend. Le plus important pour nous dans cette vie est de comprendre ceci. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu et prendre notre plaisir en lui, avec tous les enfants de Dieu. Je finis avec une citation. J'ai trouvé cette citation extraordinaire. C'est l'écrivain C.S. Lewis qui illustre l'attitude du chrétien dans la période que nous traversons, je pense, avec la guerre en Ukraine et les problèmes qui en découlent. C.S. Lewis n'est pas là aujourd'hui, mais il avait écrit dans un contexte où il y avait une multiplication rapide d'armes atomiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a encouragé à adopter la bonne perspective sur le risque nucléaire. Alors, la citation est longue, j'ai pris la partie la plus pertinente pour nous ce matin. Il écrit ceci à un moment donné de son texte. Si nous devons tous être détruits par une bombe atomique, et bien que cette bombe, lorsqu'elle nous atteindra, nous trouve en train d'accomplir des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, baigner nos enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis et non terrer les uns contre les autres comme des moutons effrayés qui ne font que penser aux bombes. Ces bombes peuvent briser nos corps. D'ailleurs, un microbe peut le faire. Il le savait, hein. Mais elles ne doivent pas dominer notre esprit. Mes amis, quelle citation extraordinaire. En toutes circonstances, que Dieu nous garde soumis à lui, confiant en lui et toujours reconnaissant pour toutes les bonnes choses qu'il nous offre. Que nos yeux ne soient pas fixés sur les problèmes et les épreuves de cette vie, mais que sur Dieu, sur l'espérance qu'il nous offre en Jésus-Christ qui revient bientôt. Prions. Notre Dieu, le monde va mal, c'est clair. La vie est parfois belle, parfois dure, injuste ou frustrante. Notre premier rôle en tant que tes enfants, face aux combats et aux souffrances de cette vie, est de prier, de demander ton aide, ton secours. Notre rôle est aussi d'aider celles et ceux qui souffrent. Mais au milieu de tout cela, tu fais toutes choses belles en ton temps. Tu restes maître du temps. Tu nous offres de bonnes choses pour que nous en jouissions. Et un jour, tu rétabliras toutes choses. Oui, un jour, le mal, la souffrance ne seront plus et feront place à ta justice, à ta paix, à ta joie parfaite et éternelle. Merci, notre Dieu, pour les grands et petits plaisirs de cette vie que tu nous offres. Que nous gardions ces trois fondements que nous avons vus ce matin. Te respecter, te faire entièrement confiance, t'exprimer sans cesse notre reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, nous croyons que nous ne pourrons jamais trouver notre joie ultime dans les petits et grands plaisirs de cette vie. Il n'y a rien dans cette vie qui puisse nous satisfaire vraiment. Nous croyons que la joie ultime et le bonheur absolu ne se trouvent qu'en toi seul. Que nous trouvions notre plus grande joie et notre plus grand bonheur en toi, dans ta présence, jour après jour. Et nous prions que plusieurs qui ne te connaissent pas encore viennent à toi pour expérimenter ta joie parfaite et éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.